Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, la libre pensée. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Au micro, Christophe Bitteau, vice-président de la Fédération nationale de la libre-pensée. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain-Georges Leduc, membre de l'Association internationale des critiques d'art et de l'Association internationale des sociologues de langue française, et Hélène Lorty, libre-penseuse, pour parler de la censure et de la liberté artistique. Alain, pouvez-vous nous décrire les différents types de censure artistique que vous distinguez?
Alors, d'évidence, on va tout de suite penser, quand on évoque le thème de censure, qu'on représentait d'ailleurs au XIXe siècle par une dame à l'air peu accorte, avec des grands ciseaux qu'on appelait
Anastasie.
Anastasie ou Anastasia, comme étant d'ordre politique. Et très vite, on va étayer cette assertion par les souvenirs des grandes dictatures, que ce soit le nazisme, le stalinisme, ou que ce soit toute période politique particulière liée notamment à des nationalismes. Et ensuite, on a très vite, et c'est ce qui nous intéresse beaucoup, nous, ici, aujourd'hui, présentement, à la libre pensée, ce qui nous importe, c'est la question de la censure religieuse. Je crois que les religions sont porteuses d'un certain nombre d'éléments radicalement, foncièrement vénéneux, des approches vénéneuses. La censure, bien sûr, la haine de la femme, et on pourrait multiplier un certain nombre de points qu'elles ont toutes en commun. Et ensuite, on a une censure économique. On ne peut pas publier tel livre, on ne peut pas exposer tel artiste, parce que finalement, ça coûterait cher, ou ça coûterait trop cher, et on ne pourrait pas le produire. Donc, l'intérêt économique va se déplacer vers des choses un peu plus... Je prends un exemple qui a l'air absolument absurde, mais qui va toucher beaucoup d'entre vous. C'est la question de... Moi, je suis atterré de voir qu'aujourd'hui, on fait une espèce de téléfilm incroyable, mais vraiment dégueulasse, autour de la peste de Camus, quoi. Et ça, c'est quelque chose de, pour moi, d'inadmissible, quoi. C'est-à-dire que, comment dévoyer une œuvre? Comment casser une œuvre? Eh bien, comment casser une œuvre picturalement? En faisant entrer, par exemple, dans la publicité des tableaux de Chirico, ou des très grands tableaux de Rembrandt, ou tout bêtement, ben, la laitière avec la crème pour, voilà comment on va casser économiquement, à contrario. Puis ensuite, on a une censure morale, mais ça va recouper les premières. Puis après, on a une censure par déperdition de sens. J'ai toujours été fasciné, c'est une première chose que j'essaie d'apprendre à mes étudiants quand je travaille dans les écoles supérieures d'art. La phrase de Victor Hugo, c'est la forme, c'est du contenu qui remonte à la surface, quoi. Et c'est vrai que si on n'a pas une pensée conséquente sur les rapports fond-forme, forcément on va être faible par rapport à une position qu'on peut prendre vis-à-vis des censures réelles ou des censures potentielles. Et quand Bernard Noël parlait de la censure qu'il écrivait avec un S, c'était la privation de sens. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on ne maîtrise pas suffisamment la langue ou les techniques, etc., etc., dans tous les domaines plastiques ou artistiques, on va arriver au fait que on va dévoyer la lecture que le lecteur ou l'observateur ou le spectateur va en faire, potentiellement.
Jeu de mots porteur justement de sens, en l'occurrence. Alors, à contrario des exemples que vous venez de citer, Alain, l'authentique mouvement ouvrier... Et par là même, je ne parle pas du régime stalinien qui instaura le réalisme socialiste et l'art prolétarien, ni même de son avatar, la littérature prolétarienne. L'authentique mouvement ouvrier, disais-je, a lui toujours défendu la liberté artistique. On peut prendre plusieurs exemples historiques. On va peut-être commencer par la Commune de Paris, par exemple.
Alors, La Commune de Paris, qui est un exemple à la fois quasi mythologique au sens plein du terme, qui est un exemple princeps, qui est un exemple auquel nous-mêmes sommes régulièrement confrontés par telle référence, il a ceci de terrifiant, c'est qu'il a été très bref. C'est quelques mois. Et il a aussi ceci de magnifique, c'est qu'en ces quelques mois-là, on a oublié parfois de se perdre en parlotte. Je cherchais un exemple. On dit que quand les Turcs sont arrivés à Byzance, les orthodoxes, donc chrétiens, qui étaient là, n'ont pas pu vraiment répondre parce qu'ils étaient en train de discuter de la vérité du sexe des anges et de la longueur des ailes. Ce qui est pas forcément faux, on trouve ça dans beaucoup de textes historiques. Mais là, ce qui se passe effectivement avec la Commune de Paris, c'est qu'en quelques mois, Courbet et d'autres, par exemple, si je prends le domaine qui est le mien, celui de l'enseignement artistique et celui de la critique d'art, eh bien, il va lutter contre les pseudo-salons officiels. N'oubliez pas qu'à l'époque de Napoléon III, c'est Napoléon III, le dictateur, qui inaugure les salons. Napoléon et puis, de temps en temps, il donne un coup de cravache sur une femme nue pour signifier la censure et qu'il décrit là que c'est pour lui un tableau obscène, quoi. Et là, la Commune de Paris, eh bien, ils vont créer des écoles gratuites pour tout public. Ils vont créer de l'enseignement gratuit dans le domaine des arts plastiques, où les modèles, les matériaux, etc., sont à disposition des gens. Ça, c'est redoutablement révolutionnaire.
Alors Alain, vous avez évoqué légitimement Courbet. Donnons-lui, à travers les siècles, la parole par la voix d'Hélène Lortie.
L'art par la liberté. L'art étant l'expression libre de la pensée, la Commission demande la libre expansion de l'art dégagée de toute tutelle gouvernementale et de tout privilège, l'abandon radical du principe autoritaire qui était l'essence même de l'ancienne administration. Elle se prononce pour la suppression des écoles d'art officielles, car toute direction officielle, imprimée au jugement de l'élève, est fatale et condamnée.
Et Courbet invite
les artistes à prendre eux-mêmes la direction des musées et des collections d'art qui, tout en étant la propriété de la nation, sont surtout la leur du double point de vue de la vie intellectuelle et matérielle. Ce gouvernement du monde des arts devra gérer les musées pour conserver les trésors du passé, développer les expositions pour mettre en lumière tous les éléments du présent, mettre en place un enseignement rénové pour la régénération de l'avenir. La Commission devra concourir au luxe communal en répandant des chefs-d'œuvre jusqu'aux plus humbles communes de France.
Bien, Courbet vient d'évoquer la commission de la commune, la commission fédérale. Il faut bien dire qu'elle comprenait tout le gratin artistique de l'époque puisqu'il y avait 47 noms néanmoins. Alors prenons maintenant un autre exemple historique du rôle du mouvement ouvrier en faveur de la liberté artistique. C'est le célèbre, parce qu'il est maintenant devenu célèbre, manifeste pour un art indépendant, rédigé par un trio lui aussi célèbre, André Breton, Diego Rivera et Léon Trotsky, qui proclament « toute licence en art ».
Oui, toute licence en art, et puis forcément pas de censure, ce qui est implicite en art. Et encore faut-il définir ce que le mot « art » va recouper. En ce qui concerne les noms que vous venez de citer, Trotsky au premier chef, c'est quelqu'un qui s'intéresse de longue date, bien avant la révolution de 17, à ces questions d'esthétique, de théorie esthétique ou de théorie littéraire, donc qui possède une certaine culture liée forcément à sa formation sous l'ancien régime tsariste, mais qui va dans ces différents points d'attache, je pourrais dire temporaires et successifs, en fonction de sa carrière qu'on connaît très mouvementée à partir de 1927-29, en Norvège ou en Turquie, etc. Et dès qu'il s'installe au Mexique, bon, c'est les liens privilégiés qu'il a avec Frida Kahlo, avec Rivera et avec les muralistes américains, quoi. Et il se trouve que quand la Seconde Guerre mondiale venant, eh bien, André Breton se retrouve exilé au Mexique. Où est-ce qu'il arrive? Il arrive chez Frida Kahlo, il arrive chez Trotsky, et là, ce sont des discussions sans fin et autour de la littérature internationale. C'est un très très fin connaisseur de Trotsky parlait plusieurs langues, d'un certain nombre de littératures, et puis surtout de ses peintres. De ces peintres mexicains incomparables que sont Siqueiros ou même Rivera.
Effectivement, si les écrits politiques, voire militaires de Trotsky sont célèbres de par le monde, peu de gens connaissent, en tout cas moins connaissent ses écrits artistiques. Ce n'est qu'un jugement tout à fait personnel. De mon côté, c'est ce que je préfère. Alors, eh bien, nous allons lire un extrait de ce fameux manifeste, toujours par Hélène Lortie.
L'art ne peut consentir sans déchéance à se plier à aucune directive étrangère et à venir docilement remplir les cadres que certains croient pouvoir lui assigner à des fins pragmatiques extrêmement courtes. Mieux vaut se fier au don de préfiguration qui est l'apanage de tout artiste authentique, qui implique un commencement de résolution, virtuelle, des contradictions les plus graves de son époque et oriente la pensée de ses contemporains vers l'urgence de l'établissement d'un ordre nouveau. L'idée que le jeune Marx s'était faite du rôle de l'écrivain exige de nos jours un rappel vigoureux. Il est clair que cette idée doit être étendue sur le plan artistique et scientifique aux diverses catégories de producteurs et de chercheurs. L'écrivain, dit-il, doit naturellement gagner de l'argent pour vivre et écrire, mais il ne doit en aucun cas vivre et écrire pour gagner de l'argent. L'écrivain ne considère aucunement ses travaux comme un moyen, ils sont des buts en soi.
Nous avons donc fait un survol historique, je dirais, de la censure d'abord, puis de la défense de la liberté artistique par le mouvement ouvrier à travers la Commune et à travers le manifeste de Trotsky, Rivera et Breton. Revenons peut-être en conclusion, pour environ 5 minutes, à l'actualité de cette censure artistique.
Vu la... Parce que je dois prendre le terme de décomposition qui est assez violent de la société actuelle et des symptômes que l'on peut en relever quotidiennement. Là, j'enregistre ces quelques propos le lendemain des caucus dans 15 États fédéraux américains. De toute façon, la question est pliée. Hein. On a le choix entre l'un et l'autre. C'est-à-dire, grosso modo, les médias nous disent entre un homme de 77 ans et un homme de 80 ans, un an. Lesquels sont tous perdus dans leur lapsus, dans leur non-projet politique. On voit très bien que ce qui avait été annoncé comme, paraît-il, encore fallait-il avoir la naïveté pour le croire, que l'un aurait peut-être davantage aidé les Palestiniens que l'autre, on en voit le résultat. Quand on voit sur le plan national ce qui se passe avec un des gouvernements les plus liberticides et les plus réactionnaires qu'on ait sans doute eu, je n'ose même pas dire depuis De Gaulle, quoi, mais depuis en tout cas très très longtemps, il est évident que la censure bat son plein. Et la censure bat son plein sous toutes ses formes. Et ce qui est le plus visible, c'est les groupes Bolloré, etc. C'est toutes les groupes de presse. On voit comment ça fonctionne, ça s'articule. Et puis on le voit ensuite sous prétexte de quelques biais. On le voit dans le domaine du cinéma. Mais surtout, on le voit dans le domaine de en ce qui nous concerne ici, dans le domaine de la peinture. Expositions interdites, censurées, supprimées, alors qu'elles ont coûté une fortune. Les grandes expositions Gauguin, les trois plus grandes dernières ont été annulées au dernier moment, etc., etc., etc. La censure dans le domaine du livre, et là on voit bien la censure économique. Je regardais, là actuellement je travaille à l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée à dépouiller les fonds de notre revue qui s'appelle depuis 1911 L'idée libre. Je vois à quel point il y avait par exemple dans ces revues-là de la poésie, des rubriques poésie. Mmh. Il n'y a plus du tout, depuis une quinzaine d'années. Vous avez des rubriques avec des nouvelles, il n'y a plus du tout. C'est-à-dire que tout à coup, on se rend compte que le goût du public par rapport à la poésie a reculé. La photographie est encore bienvenue dans un certain nombre de titres, y compris chez nous, mais d'autres approches picturales touchant des questions esthétiques, et c'est la chance, je m'occupe de la rubrique art à la raison, c'est la chance qui nous est donnée de pouvoir parler de ces questions d'esthétique, donc de sens. Mais là, on est dans des périodes vraiment de très très basses eaux.
Effectivement, tout ce qui est presse, comme on dit mainstream, fait l'objet de la censure que vous avez qualifiée de censure économique. En revanche, je crois que c'est important de le dire. La libre pensée a un rôle militant. la libre pensée, les auditeurs commencent à nous connaître un petit peu maintenant et à connaître nos thématiques propres. La libre pensée est anticapitaliste, elle est pacifiste, antimilitariste, anticléricale, bien sûr, elle est rationaliste. Mais elle a un autre rôle qui est très important, c'est le rôle d'éducation populaire. Et c'est vrai que dans La Raison, j'invite tous nos auditeurs à s'abonner à La Raison. Nous avons régulièrement, depuis 3-4 ans, une rubrique cinéma, une rubrique art à laquelle vous avez fait référence, Alain, et pour la bonne raison que vous en êtes le responsable, une rubrique littéraire dont je suis le responsable, etc., etc. On essaie véritablement de jouer à la fois un rôle militant et un rôle de d'éducation populaire. Je vais vous donner le mot de la fin.
Le mot de la fin, ils sont très simples. Moi, ce qui me fascine dans ce mouvement auquel je suis pleinement adhérent, c'est l'utilisation que l'on fait en les récusant de deux termes. C'est le mot préjugé et le mot dogme. Donc, nous sommes antidogmatiques. Et nous tentons de l'être, c'est pas facile. Quand j'étais en classe de philo au lycée de Cambrai, je me disais, mais qu'est-ce que pensait déjà? J'avais pas encore lu Heidegger, mais je commençais à avoir des idées sur la difficulté à être ce qui incarne une pensée. Et deuxièmement, est-ce qu'on peut penser par soi-même, déjà, fondamental? Mais l'étape la plus conséquente, c'est penser contre soi-même, quoi.
Eh bien, c'est une belle formule pour clore notre émission. Donc effectivement, la libre pensée essaie à son échelle de lutter contre toute forme de censure artistique. Et notre mot d'ordre, c'est toute licence en art. Notre émission arrive à son terme. Il ne me reste plus qu'à remercier mes invités, Alain-Georges Leduc et Hélène Lortie, Luc-Jean Reynaud à la réalisation, Guillaume Ficheux à la technique et Claire Poinsignon à la production. Si les propos de ce jour vous ont intéressé, je vous invite à vous abonner à La Raison, comme je l'ai dit, via le site fnlp.fr. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission où je passerai cette fois-ci de l'autre côté du micro. Exercice difficile, je demanderai aux éditeurs d'être particulièrement, tolérants avec moi-même. Merci beaucoup, bonne fin de journée, bon dimanche et au mois prochain.